entre les mains de Dieu. La Bible familiale aux éditions Vie et Santé, lue par Christine.
Les deux lettres aux Corinthiens. Lors de son deuxième grand voyage, Paul s'arrêta dans la ville portuaire grecque de Corinthe. C'est là qu'il fit la connaissance d'Aquilas et de Priscille, un couple juif qui avait vécu à Rome et qui plus tard y retourna. Aquilas et Priscille étaient fabricants de tentes et étaient venus à Corinthe lorsque l'empereur Claude avait chassé les Juifs de Rome. Ils y avaient fondé un commerce. Paul, qui exerçait le même métier qu'eux, resta un an et demi à Corinthe et travailla avec eux. Il habitait dans la maison d'Aquilas et de Priscille et ensemble, ils fondèrent une église. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul fit une courte halte chez les chrétiens de Corinthe. Il travailla ensuite pendant 3 ans dans la ville d'Éphèse. Durant cette période, il resta en contact avec ses amis, car Apollos, un juif d'Alexandrie, faisait souvent le déplacement entre Corinthe et Éphèse et lui apportait des nouvelles. Paul reçut ainsi des nouvelles de l'église de Corinthe grâce aux parents d'une femme appelée Chloé. Il y avait des problèmes dans cette église. Les croyants étaient durs les uns envers les autres. Ils se faisaient des procès en justice et étaient jaloux. Les gens de l'extérieur secouaient la tête en voyant cela. Paul était très inquiet et il décida d'écrire une lettre d'avertissement aux chrétiens de Corinthe. La ville de Corinthe était située sur la bande de terre qui relie le Péloponnèse au continent. Elle était reliée à la mer Ionienne par le port de Lécaon, sur le golfe de Corinthe. Le port de Sancré, à l'Orient, sur le golfe d'Égine, faisait de son côté le lien avec la mer Égée. Corinthe était ainsi le lieu de rencontre des commerçants, des voyageurs venant d'Espagne, d'Italie, d'Asie mineure et d'Égypte. Seuls les bateaux de moindre taille pouvaient entrer dans le port. Les autres attendaient en mer que l'on vienne chercher leur cargaison. Corinthe était une grande ville pleine de contrastes. 2/3 de ses habitants étaient des esclaves, 2/3 des commerçants. Les rues étaient remplies de marchands venus de Rome, de Grèce, de Palestine, de Syrie et d'Égypte. Les affaires allaient bon train et tout le monde y trouvait son compte. À Corinthe, toutes les religions de l'époque étaient représentées et avaient leur temple, bien entendu. La population adorait des divinités égyptiennes et romaines. Au milieu de toutes ces influences, il était difficile de rester fidèle à sa foi et les chrétiens de Corinthe retombèrent parfois dans leurs anciennes habitudes. Paul comprenait tout cela, mais il savait qu'il fallait qu'il leur fasse de sérieux reproches afin qu'ils reviennent à la foi en Jésus. Il voulait leur montrer quelle est la manière de vivre et de penser qui plaît à Dieu. Paul ne commença pas sa lettre par des critiques ou des reproches, mais par des encouragements. Il rappela aux chrétiens que Jésus est puissant et qu'il peut les guider jusqu'au bout, car c'est Dieu qui les avait appelés à lui et Dieu est fidèle. Puis il invita les chrétiens à rester unis et à ne pas se disputer pour des broutilles. Il y avait par exemple un homme qui avait cru en Jésus grâce à la prédication de Paul et qui s'en vantait. Un autre disait « Moi, j'appartiens à Apollos ». Un troisième affirmait être le disciple de Pierre. « C'est à Jésus-Christ que nous appartenons », écrivit Paul. « C'est lui qui est mort pour nous sur la croix et non un apôtre. La mort et la résurrection de Jésus sont les fondements sur lesquels l'Église est construite. Personne n'a le droit de s'estimer meilleur que les autres à cause de son savoir. Nous ne pouvons pas nous croire supérieurs aux autres, ni les juger. En effet, nous ne pouvons pas lire leurs pensées, ni savoir ce qui se passe dans leur cœur. Seul Dieu le peut. En outre, les chrétiens doivent faire attention à la manière dont ils vivent, afin de ne pas nuire à la réputation de l'Église, en respectant les lois, par exemple, et ne pas donner aux gens une raison de la critiquer. Ce serait une très mauvaise publicité. les personnes qui ne connaissent pas Dieu auraient une idée complètement fausse de lui. Paul rappela aussi aux chrétiens de Corinthe que seul le Saint-Esprit peut nous donner la force de changer de comportement. Selon les théories des savants et des philosophes grecs, beaucoup de gens croyaient à l'époque que le corps était une sorte d'enveloppe et qu'il n'était pas important. Ils pensaient que seul l'intérieur, la pensée et l'esprit avaient de l'importance et qu'on pouvait donc faire de son corps ce que l'on voulait. Mais Paul écrivit à ce sujet : « Votre corps est le temple dans lequel le Saint-Esprit désire habiter. Vous devez donc vivre de manière à faire honneur à Dieu dans votre corps. En effet, la vie et le corps sont un cadeau de Dieu. En prenant soin de notre corps, en le gardant en bonne santé et en le fortifiant, nous disons merci à Dieu. Bien sûr, chacun est libre de ses actes, mais tout n'est pas forcément bon. » Paul compara l'Église au corps humain, avec ses membres et ses organes. Tous doivent travailler ensemble pour qu'ils fonctionnent correctement. Le pied est aussi important que la main et l'oreille aussi importante que l'œil, car on a besoin de l'un et de l'autre pour que le corps tout entier remplisse sa fonction. Si une partie du corps souffre, toutes les autres en sont affectées. De la même manière, Dieu a réparti les talents et les tâches dans l'Église, mais ils ont tous la même importance. Pour éviter que les croyants soient jaloux les uns des autres, chacun doit se rappeler qu'il y a quelque chose de plus important que le talent, à savoir l'amour. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Paul décrivit ensuite comment se manifeste l'amour de Dieu pour les hommes. Cet amour qu'il aimerait bien éveiller en nous. Il explique comment cet amour peut nous faire agir. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour est éternel. C'est cet amour-là que Jésus a témoigné aux hommes. Paul aimait lui aussi les chrétiens de Corinthe, et l'on sentait dans sa lettre qu'il souhaitait vraiment leur bonheur. C'est pourquoi ils écoutèrent ses reproches et les prirent au sérieux. Mais Paul ne l'a pris que bien plus tard, car il dut fuir d'Éphèse peu de temps après avoir écrit cette lettre. En effet, on cherchait encore à le tuer. Cependant, il put se réfugier à Troie, où attendait son jeune compagnon Tite, qui lui annonça comment l'église de Corinthe avait réagi à sa lettre. Lorsqu'il apprit que la situation de l'église était nettement améliorée, Paul fut rempli de joie. Paul écrivit encore une lettre aux Corinthiens, dans laquelle on sent toute son inquiétude, mais aussi toute son affection pour eux. Il se sentait très proche d'eux et aimait chacun en particulier. Il leur rappela que Dieu nous donne du courage lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes tristes et angoissés. Il nous donne toujours la force de faire ce que nous avons à faire. Mais les chrétiens ont aussi des devoirs, comme celui de réconcilier les gens entre eux. De même que Jésus a construit un pont entre Dieu et l'homme perdu, nous devons nous aussi inviter les hommes à se réconcilier avec leur Créateur et avec leurs semblables. Comme un ambassadeur qui défend les intérêts de son pays à l'étranger, nous les chrétiens sommes envoyés par Dieu pour dire aux hommes ce que Jésus leur dirait. Dieu vous aime. Il veut pardonner vos péchés. Acceptez donc l'offre qu'il vous fait.
C'était un extrait de la Bible familiale Entre les mains de Dieu aux éditions Vie et Santé.